Il est 8h. Belle journée à tous sur Europe 1. La suite de la matinale avec Isabelle Moreau.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale week-end. Juste après les principaux titres de l'actualité, ce sera l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach qui reçoit ce matin Thierry Breton, ancien ministre de l'économie et désormais commissaire européen au commerce extérieur. Mais d'abord, donc, les titres de l'actualité. Actualité marquée par ces violents orages accompagnés de pluies diluviennes, de grêlons et de vents violents. Une grande partie de la France a subi cette vague d'intempéries hier. Une jeune femme est décédée à Rouen. De nombreux dégâts sont à déplorer, notamment dans les Landes et le Gers. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, doit tenir un point presse dans l'heure qui vient. Météo France a de son côté levé toutes les vigilances pour cette journée. Des explosions entendues à Kiev, selon le maire de la ville, Vitali Klitschko. La capitale ukrainienne était épargnée depuis plusieurs semaines et commençait à retrouver un semblant de vie normale. Kiev, par ailleurs, en colère après les déclarations d'Emmanuel Macron appelant à ne pas humilier la Russie pour préserver la voie diplomatique. Et alors qu'une grande majorité de Français se désintéresse des législatives et que la campagne peine à exister, les agressions contre les candidats se multiplient. Jet d'œuf vendredi pour Marine Le Pen, crème chantilly hier pour Jean-Michel Blanquer. Sur les 5 premiers mois de cette année, pas moins de 956 élus ont été pris pour cible. Tout de suite, l'interview politique. Jean-Pierre Elkabbach.
Europe Matin Weekend.
Votre matinale info sur Europe 1.
D'abord, bonjour à tous et bienvenue. Thierry Breton, vous êtes en charge de l'immense secteur du marché intérieur, de la stratégie de l'Europe. Et je pense que ça convient parfaitement à votre créativité, à votre énergie, oui, et à votre principe de dire la vérité. Alors aujourd'hui, les Français, comme la plupart des Européens, sont inquiets parce qu'ils voient, comme on l'a dit encore tout à l'heure, les conséquences de la guerre d'Ukraine chez eux. Ils voient les conséquences sur leur vie de tous les jours, sur leur pouvoir d'achat. Et en plus, maintenant, mais c'est momentané, on l'espère, les orages. Est-ce que vous dites aux Européens, vous nous dites, il y a un changement d'époque, serrez les ceintures?
Les changements que vous venez d'évoquer sont de différentes natures. Ça n'aura pas échappé à nos auditeurs. Il y a évidemment d'abord le changement climatique. Et c'est celui qui effectivement a intéressé nos compatriotes, mais aussi un nombre important de nos concitoyens européens. C'est vrai que le changement climatique, il est à l'œuvre. Et on le voit tous les jours. Et donc il y a cette urgence, effectivement, d'atteindre, vous savez, notre objectif, l'objectif zéro carbone à l'horizon 2050. On sait, de façon certaine, scientifique, avérée, il n'y a plus de climato-sceptiques, je pense, désormais, que, voilà, le réchauffement climatique, les émissions de CO2 dans l'atmosphère, eh bien ça provoque ce qu'on est en train de vivre. Donc, voyons, on est dans cette situation d'urgence. Et puis, il y a d'autres éléments. Ouais, alors, on ne mélange pas tout. Il y a effectivement la guerre, il y a effectivement... il y a eu le Covid, il y a la dépendance de nos chaînes de valeur. Donc, voilà, on est bien conscient.
Comme j'ai dit, l'époque change.
Oui, on est conscient que... Vous savez, on avait déjà cette conscience, je crois qu'on peut le dire, avec la crise tellement inédite que nous avons vécue, celle du Covid. On a vu qu'on était dépendant, on a vu qu'il fallait reconquérir notre souveraineté dans bien des domaines. Ça a été fait avec les vaccins, vous vous en souvenez. Je m'en suis occupé et ça a été un combat de tous les jours. Mais, qui lui dit, du reste, Jean-Pierre Elkabbach, en l'espace de quelques mois, l'Europe est devenue la pharmacie du monde. C'est le continent qui a fabriqué le plus grand nombre de vaccins pour nos concitoyens, mais aussi pour le reste du monde. Donc on peut le faire quand on s'en donne les moyens.
Et on va voir dans quel domaine, justement. Mais, vu de Bruxelles, à quoi ressemble aujourd'hui la France ? Est-ce qu'elle est prête à tout ce qui est en train de se produire ? Est-ce que vous la voyez forte de ses ressources, peut-être de quelques atouts, ou vous la voyez fatiguée, divisée, comme on dit, un peu somnambulique ?
Non, la France est un grand pays, évidemment. La France est un pays majeur au sein de l'Union européenne. La France est l'un des moteurs essentiels
du fonctionnement européen. Après les présidentielles, il y a trois grands blocs.
Oui, Jean-Pierre Elkabbach, c'est ce qu'on appelle la fragmentation. C'est, vous savez, c'est nos démocraties. On est d'abord, je voudrais le redire, peut-être de façon très, très, très calme, mais peut-être avec un peu de profondeur. Nous sommes la première réelle démocratie du monde libre. On est 450 millions de citoyens européens. Les États-Unis, c'est 310 millions. Bien sûr, il y a l'Inde, mais enfin, on voit ce qui se passe en Inde. Oui, on est la première démocratie, la plus grande. beaucoup plus importante que ne le sont les États-Unis. Ça nous donne effectivement un devoir. Et c'est vrai que d'être une grande démocratie, c'est pas facile. Alors, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, je ne veux pas m'éterniser, mais enfin, nos auditeurs le comprendront. Donc voilà, nous sommes une grande démocratie. Il y a de la fragmentation dans les partis politiques, c'est exact. Mais pas uniquement en France, partout en Europe. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une vision, il faut un élan. Il faut un ciment. Notre ciment à nous, c'est l'état de droit. Et notre vision, on le sait, on en a parlé tout à l'heure.
Il faut tirer les oreilles des Hongrois et des Polonais. Oui, ça, on ne va pas entrer dans le détail.
Non, parce on tire les oreilles de personne. Oui. L'Europe, c'est 27 États membres avec leur histoire. Et il faut effectivement les mettre dans le mouvement.
Bon. Alors, on observe, Thierry Breton, vos efforts personnels pour nous sortir au mieux de la dépendance à l'égard de la Russie et de son gaz. Est-ce que l'Europe sera prête d'ici à la fin de l'année, comme je l'ai entendu ?
D'abord, l'Europe a fait un mouvement majeur depuis le début de la guerre. 5 paquets de sanctions successifs, ça veut dire que l'Europe est unie, puisque pour ces paquets de sanctions, il faut l'unanimité. Ça veut donc dire qu'il y a une unité politique pour sanctionner la Russie, d'accord, y compris les deux pays que vous avez évoqués. Bon, la Russie, la Pologne, on le sait, mais y compris la Hongrie, car la Hongrie a voté tout. Les sanctions. Oui. Mais deuxièmement, maintenant, on est au 6e paquet, on le dit, et ça a été le fait de s'exonérer des importations de pétrole.
D'accord.
C'était très important, à 92%. On laisse effectivement quelques pays qui sont encore trop dépendants. Parce que voyez-vous, les sanctions, ça sert à quoi ?
À rien.
Écoutez,
non, pas à rien,
pardon,
parce que ça l'affaiblit pas. Mais il y a des conséquences aussi sur
nous.
À qui ça fait
sert
le plus de mal ?
Pardon, mais
vous l'entendez de plus en plus dans les opinions.
Les sanctions, ça sert d'abord à ne pas apporter des moyens financiers à Vladimir Poutine. Parce que pour nous, Européens, et pour notre état de droit, c'est, et pour beaucoup d'entre nous, c'est intolérable de financer cette guerre. Donc les sanctions, d'abord, ça sert effectivement à ne plus financer cette guerre. 92%,
très bien.
92% du
très
pétrole bien qui ne va plus venir de Russie, c'est autant d'argent et, que l'Europe
voilà,
ne va
très
pas
bien
donner.
Des milliards qu'ils n'auront pas.
Mais par contre.
Mais attendez, vous avez dit que ça va durer jusqu'en décembre.
Non,
c'est est-ce que ça veut dire que pour vous à Bruxelles, vous pensez que la guerre va durer
d'abord,
jusqu'en décembre, c'est-à-dire encore des mois et peut-être en 2023 ?
D'abord, je veux juste aller au bout. Derrière, il faudra aussi, et je m'y prépare, s'exonérer aussi du gaz. Parce que le gaz russe, aujourd'hui, il faut le plus vite possible retrouver notre autonomie, car Vladimir Poutine n'aime pas le projet européen. Il a tout fait depuis des années, et vous le savez, pour diviser l'Europe. On parle des vaccins, il a essayé de nous diviser avec son vaccin Sputnik qui ne marchait pas. On parle de l'état de droit, il a tout fait pour s'ingérer dans nos démocraties, avec Russian Today, avec Sputnik,
très bien, mais
sur le Brexit,
dites-moi,
on le sait. Et maintenant, il utilise le gaz pour précisément nous diviser. C'est la raison pour laquelle, moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut qu'on s'en exonère le plus rapidement possible.
Mais plus rapidement,
pour combien
vous avez
de temps
dit décembre.
Non, je dis qu'encore une fois,
décembre,
c'est pour le fuel. Sur le gaz, je m'y prépare parce que sans ça, c'est lui qui va le couper. Il l'a déjà coupé en Pologne, il l'a déjà coupé en Bulgarie, il l'a déjà coupé aux Pays-Bas, en Finlande, vous venez de le dire, au Danemark. Donc,
dans votre esprit,
nous,
c'est quand ? Ce serait quand ?
Mais on est prêt.
Cette indépendance à l'égard du gaz russe.
On est prêt aujourd'hui. Si jamais c'était coupé, on a bâti un plan avec mes équipes pour pouvoir y répondre. Mais notre intérêt, parce que c'est aussi notre intérêt, il y a les sanctions, il y a notre intérêt.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le plan ?
C'est de le faire.
Qu'est-ce qu'il y a dans le plan ?
Dans le plan,
par exemple.
Dans le plan, c'est l'augmentation du gaz naturel liquéfié. 50, vous savez, on importe 155 milliards de mètres cubes.
Beaucoup des États-Unis.
Non, on importe de Russie 155 milliards de mètres cubes par an. Là-dessus, il y a 50 milliards qui vont venir maintenant du gaz naturel liquéfié, en partie effectivement des États-Unis ou du Qatar. Deuxièmement, il y a 10 milliards supplémentaires sur les pipelines existants. Troisièmement, il y a l'accélération des éoliennes offshore et des panneaux photovoltaïques, c'est 25 milliards de mètres cubes. Quatrièmement, un sujet, et vous savez, on en a déjà beaucoup parlé, Jean-Pierre Alcabache, le fait qu'il va falloir prolonger certaines centrales nucléaires qu'on devait fermer. La Belgique a décidé de le faire. Trois centrales sont en discussion en Allemagne, c'est 12 milliards de mètres cubes supplémentaires. Ensuite, des économies d'énergie, 12 milliards de mètres cubes. Ensuite, parce qu'il va falloir sans doute pouvoir le faire, transformer des industries qui fonctionnaient essentiellement au gaz, au fuel, c'est 25 milliards de mètres cubes supplémentaires. Et enfin, parce qu'il faudra peut-être y passer par là momentanément, l'augmentation et le fait de redémarrer des centrales à charbon pendant quelques temps,
c'est-à-dire
pour le compenser.
C'est-à-dire des centrales à charbon.
Essentiellement en Allemagne.
La France en avait 4,
l'Allemagne
en restait qu'une, donc il faudrait qu'elle réouvre les 4.
Peut-être, c'est le dernier élément à avoir. Mais donc, on a la panoplie. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre-temps, si jamais effectivement on remplit nos cuves, on a intérêt à le faire. Voilà, on fait des sanctions. Elle pénalise financièrement parce qu'on ne peut pas se permettre de continuer à financer cette guerre qui est tout à fait intolérable aux frontières de l'Europe, et qu'il faut continuer à aider les Ukrainiens dans ce combat, et dans leur combat qui est un combat légitime contre cette agression, il n'en demeure pas moins qu'on préserve aussi nos intérêts.
Et quand Zelensky prétend que la France, en disant qu'il ne faut pas humilier la Russie, humilie l'Ukraine ?
Mais le président Zelensky a mené une campagne, au-delà de... Il faut rendre hommage
à son courage,
au courage de son gouvernement, et puis à travers lui, au courage de tout le peuple ukrainien qui s'est quand même levé contre cette agression. Et vous le savez, on ne s'y attendait pas. Maintenant, il a effectivement mobilisé, et c'était ce qu'il devait faire, l'ensemble des pays occidentaux, parce que c'est essentiellement de ça dont il s'agit, pour venir à son secours en ce qui concerne précisément les besoins, on le sait, d'armement. Voilà, derrière le président de la République, il est comme nous. Il sait que la géographie, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas bouger. Donc, bien sûr qu'on souhaite que cette guerre se termine le plus rapidement possible. Quand personne ne le sait, moi, en tous les cas, dans ma responsabilité, je m'inscris dans un temps long, parce qu'il faut se préparer à un temps long.
Le temps long, c'est ?
Le temps long, c'est plusieurs mois et peut-être même plus. Et en tout cas, moi, je me prépare à un temps long. C'est ma responsabilité. Si ça se finit avant, tant mieux.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Parce que les particuliers réclament à la fois d'être protégés, que l'électricité ne soit pas trop chère, et en même temps, ils défilent contre le réchauffement du climat. Est-ce que vous leur dites qu'en ce moment, il y a une contradiction, il faudra s'y faire ?
Non, je ne dis pas qu'il y a une contradiction. On est aujourd'hui c'est un autre sujet, mais on est dans une période inflationniste. Elle avait démarré, on le sait, y compris avec les prix de l'énergie, avant même le début des hostilités en Ukraine en février. On le sait. Donc on est dans cette logique inflationniste, et en particulier sur les coûts de l'énergie. Donc ça, il faut le traiter. Je tiens à noter malgré tout, et je parle en tant que commissaire européen, que la France est le pays qui, pour l'instant, c'est un fait, gère le mieux cette inflation, puisque l'inflation, elle est à 8,4-8,5%, la France est à 5,7%. On a des pays en Europe qui sont à plus de 10, voire plus de 15. Alors voilà, on gère bien cette inflation, mais on est inscrit dans cette logique-là. Aux États-Unis, on est bientôt à 10. Vous voyez, on est dans un monde.
On continue parce que je
change.
Sais.
Vous disiez le monde qui change. Ça, c'est un changement assez radical. Alors, il faut donc effectivement
pourquoi s'y préparer. Pourquoi votre énergie est placée également pour la recherche des matières premières dites critiques ? Est-ce que ça veut dire que si on n'a pas ces matières premières, le lithium et toutes sortes de choses que je ne connais pas forcément, on arriverait à bloquer l'électronique dans tout le pays, dans toute l'Europe ?
Vous savez, on se rend compte effectivement, on s'en est rendu compte pendant la crise du Covid. Lorsque je me suis occupé des vaccins, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de composants qui fabriquaient ces vaccins étaient fabriqués par nos usines qui étaient aux États-Unis. Les États-Unis ont décidé de bloquer du jour au lendemain les exportations de nos usines en Europe. Parce qu'elle voulait garder ses composants pour leurs concitoyens américains tant que l'immunité collective n'était pas atteinte. J'ai donc dû faire la même chose en Europe. On a fait un rapport de force, on a rouvert les chaînes de valeur. Qu'est-ce que ça nous dit, Jean-Pierre Lecavache ? Ça nous dit effectivement qu'on est dans une nouvelle géopolitique. Cette nouvelle géopolitique, c'est ce que j'appelle la géopolitique des chaînes de valeur. En d'autres termes, c'est pas parce qu'on va remettre une usine en Europe que tous les problèmes seront réglés. Bien sûr qu'on va le faire. Mais j'entends ceux qui disent qu'il faut tout remettre en Europe et puis mettre des frontières derrière, des barrières derrière. Ça ne marche pas comme ça, le monde. Parce que c'est une usine, c'est le bout de la chaîne. Et que derrière, il y a effectivement, vous l'avez rappelé, un nombre important de composants. Vous faisiez allusion, par exemple...
Les semi-conducteurs, 90% à Taïwan, etc.
Vous faisiez allusion, par exemple, au lithium. Et un certain nombre d'éléments qui sont des éléments très importants pour les batteries. On a des usines de batteries. Mais si on est dépendant, effectivement, que d'un seul pays, on est fragilisé. Donc nous sommes en train de mettre une dynamique en place pour multiplier nos sources d'approvisionnement et assurer la garantie de la sécurité d'approvisionnement sur tous ces domaines stratégiques, y compris en rouvrant des mines en Europe.
Je peux vous poser deux questions très rapidement. Poutine a proposé à deux fois de réduire progressivement les sanctions et lui livre du blé. Oui ou non ?
Le président Macky Sall est venu s'entretenir.
Sénégalais, président
de l'Union africaine en exercice il y a deux jours. Et j'ai cru comprendre qu'il avait assuré le président Macky Sall qu'il allait lever lui-même le blocus qu'il crée lui-même pour le peuple africain. Et c'est une bonne chose. Bon, le blocus, c'est Poutine qui le met en place, personne d'autre.
Oui, mais si on baisse les sanctions, il paraît qu'il faut que je vous parle en 30 secondes, l'Amérique s'engage et entraîne les Européens, il y a des armes, de l'argent, etc. Est-ce qu'il n'est pas possible de mettre toute cette énergie dans le fait de pousser les deux parties, les deux belligérants, à négocier un cessez-le-feu et peut-être même un compromis? Parce que vous le dites vous-même, la guerre va durer, est-ce qu'il ne faut pas les pousser à s'accorder, au moins se mettre de chaque côté d'une table?
Je pense que beaucoup à Moscou sont en train de comprendre que c'est l'intérêt du peuple russe que de trouver un compromis. J'espère que Poutine saura l'entendre.
Et nous, on le soutient?
On soutient évidemment.
Cet effort de paix.
Oui. Encore une fois, la guerre, elle est entre l'Ukraine et la Russie. Et nous soutenons effectivement le fait que l'Ukraine et la Russie, le plus vite possible, se mettent à une table de discussion pour un cessez-le-feu, bien sûr.
Merci Thierry Breton, il faudra revenir parce qu'il y a tellement de sujets. J'aurais voulu parler de la défense et la souveraineté, des rapports avec les États-Unis, la Russie, ne pas être dépendant ni de l'un ni de l'autre.
Ce sera voilà. Pour une prochaine merci fois, assurément. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci à vous Thierry Breton. Tout de suite, l'actualité de ce dimanche. En bref, Elisa Lukaski.
Europe 1.
À la suite des violents orages qui ont touché la France hier, le message d'Elisabeth Borne aux Français. Hier soir, la Première ministre a promis que le gouvernement serait là pour les territoires touchés. Pour rappel, en plus des nombreux dégâts, ces orages ont fait une victime, une jeune femme qui est décédée du côté de Rouen. La bataille de Severodonetsk fait rage. Des combats de rue ont toujours lieu dans la ville clé de l'est de l'Ukraine. Les troupes russes seraient entrées dans la ville en la divisant en deux, mais les militaires ukrainiens seraient parvenus à se redéployer, à construire une ligne de défense. Les Russes qui concentrent désormais, et ce depuis plusieurs jours, leur offensive sur le Donbass. Et puis Iga Świątek a décroché son deuxième Roland Garros. La numéro 1 mondiale s'est facilement imposée face à l'américaine Coco Gauff 6-1, 6-3. Invaincue depuis 35 matchs, la polonaise de 21 ans a remporté son deuxième titre du Grand Chelem et se positionne comme la patronne du tennis féminin mondial.
Elle continue dans un instant avec face à Bigot, face à Guillaume Bigot. Aujourd'hui, ce sera Gabriel Cluzel au programme. Ces explosions entendues ce matin à Kiev, capitale de l'Ukraine. Nous ferons aussi un état des lieux après ces violents orages partout en France. Et nous parlerons bien sûr des législatives à une semaine du premier tour entre désintérêt des Français et agression contre les candidats. A tout de suite.
Isabelle Moreau. Europe Matin Weekend.
De retour dans votre matinale week-end à 8h21, très précisément, c'est l'heure de face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot.
Bonjour Isabelle
Moreau. Politologue. Face à vous, Gabriel Cluzel. Bonjour Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Une demi-heure pour débattre des grands thèmes de l'actualité ensemble, actualité de ce dimanche 5 juin. On va d'abord quand même parler de ces orages, faire un point intempérie parce que de violents orages se sont abattus sur une bonne partie du pays hier. Une jeune femme de 30 ans est morte emportée par les eaux à Rouen. De nombreuses communes se sont retrouvées sous des trompes d'eau accompagnées de vents violents jusqu'à 100 km/h dans l'Yonne. Ou encore des grêlons énormes qui se sont abattus dans les Landes et le Gers. Elisabeth Borne promet que le gouvernement sera là pour les territoires touchés. Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, doit tenir un point presse aux alentours de 9h. État des lieux en attendant avec Adrien Spiteri.
À Tours hier, il valait mieux courir pour se mettre à l'abri. En quelques dizaines de minutes, il est tombé près de 30 mm d'eau dans cette agglomération. Juste après le déluge, les pompiers ont été fortement sollicités.
Nous avons mobilisé donc pour faire face à cet événement plus de 120 sapeurs-pompiers de tout le département. Nous n'avons aucun blessé à déplorer qui soit directement donc, en lien avec cet élément tempétueux.
À Versailles, dans les Yvelines, les rues ont été inondées. Les commerçants du centre-ville ont eu peur pour leurs magasins.
On s'est retrouvé avec une mare de pluie devant la boutique. Mmh. Et que si on ouvrait la porte, franchement, ça arrivait jusque-là.
À quelques kilomètres de là, à Paris, les festivaliers évacuent les pieds dans une mare d'eau. Les organisateurs du Wheel of Green ont annulé le concert à cause des fortes pluies. Dans les Landes, des grêlons aussi gros que des balles de golf ont ravagé les vignes de cette viticultrice.
Aujourd'hui, il ne reste rien de mes 8 hectares de vignes. Ce vignoble a déjà été gelé en début de saison, au mois de mars. Nous avions environ 50% de la récolte de sauvée. Là, hier soir, cet épisode grêleux a fini de ravager complètement le vignoble.
Plus au nord à Rouen, une femme d'une trentaine d'années est décédée emportée par les eaux. Elle a été retrouvée coincée sous une voiture.
Et je précise que l'alerte a été levée par Météo France ce matin pour l'ensemble du pays. On en vient à la guerre en Ukraine et Kiev, victime de plusieurs explosions. C'est en tout cas ce qu'a annoncé tôt ce matin. Il était aux alentours de 6 heures le maire de la ville, Vitali Klitschko. Il parle d'explosions dans les quartiers de Darnitsky et de Dniprovski. Ce sont des zones très densément peuplées. Des alertes aux raids aériens ont résonné dans de nombreuses autres villes du pays. Guillaume Bigot, comment interpréter ces explosions alors que la capitale a été épargnée depuis des semaines à présent et on commençait à voir un retour progressif à la vie normale, ou en tout cas un semblant de vie normale?
Ce que nous confirmait hier Renaud Girard, qu'on avait dans Info du Monde, qui était sur place dans les environs de Kiev, et il disait qu'effectivement, pratiquement, parce qu'il y a beaucoup de civils qui sont partis, mais que les restaurants ouvraient, que c'est par ailleurs une ville assez agréable, assez verte, et qu'il y avait, effectivement un retour à la normale. Ce qui est étrange, alors on parle de bombardements, j'ai entendu ça tout à l'heure, qui étaient destinés à créer de la terreur. Ces bombardements qui sont destinés à créer de la terreur et qui détruisent tout sur leur passage, comme on l'a vu à Mariupol, sont bel et bien en cours, mais ils sont en cours dans le Donbass. Là, je ne crois pas que ce soit des bombardements destinés à tout pilonner, à écraser, etc. Alors, de quoi pourrait-il s'agir? Il faut être très, très prudent parce qu'on n'a pas d'informations.
On ne connaît pas la nature de ces explosions.
Exactement, on l'apprendra plus tard.
Ni les éventuelles victimes.
Il est plus probable, on peut se baser sur ce qui s'est passé avant. Quand il y a eu des bombardements dans l'ouest de l'Ukraine, quand il y a eu des bombardements à Lviv, quand il y a eu des bombardements à Kharkov, quand il y a eu des bombardements à Kiev ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est que ce qui était visé, c'était des stocks d'armes, des armes envoyées par l'OTAN, par les États-Unis, et qui sont stockées parfois dans des zones résidentielles. Et là, ça peut, quand il y a des informations, bien sûr, vous imaginez bien que c'est très stratégique, donc il y a vraiment un effort considérable pour dissimuler la localisation de ces armes. Mais dès lors que les Russes ont des informations et des informations humaines, ils n'hésitent pas, y compris en faisant des victimes civiles collatérales, à détruire ces stocks d'armes. C'est plus raisonnable et logique de penser ça, non pas parce que ça empêche de dire que les Russes sont des brutes sanguinaires. En fait, on sait bien que les Russes sont tout à fait capables, ne sont pas très respectueux, disons, de la vie des civils et de la vie humaine, comme ne sont pas non plus d'ailleurs les Ukrainiens, il faut dire. Mais grosso modo, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils n'ont pas tant que ça de missiles qui peuvent frapper à longue distance. Ils n'ont pas tant que ça de munitions. Il y a de la DCA aussi pour les avions. Donc s'ils font ça, c'est qu'il y a ce qui est une raison, je pense, de nature militaire.
Il faut effectivement encore rester très prudent.
Nous savons bien depuis le début de cette guerre que pour nous autres occidentaux qui sommes loin, c'est compliqué de nous faire une idée de la stratégie de Vladimir Poutine, de la stratégie aussi des Ukrainiens en matière de communication et finalement de rendre compte de la véracité, mais au-delà de la véracité, de l'explication de ce qui se passe. Donc c'est vrai que moi, pour ma part, je reste très prudente, je n'ai absolument aucune explication sur le sujet. Ce que je sais simplement, c'est que vous parliez de ces armes. Ce sont un véritable enjeu aujourd'hui, ces armes qui sont livrées, mais pas seulement pour ça, un enjeu de moyen terme et de long terme, parce que la crainte aussi, c'est que elles tombent dans de mauvaises mains. C'est aujourd'hui ce qui est souvent abordé, un sujet qui est souvent abordé, qu'elles se retrouvent sur le dark, qu'elles soient revendues elles disparaissent dans la nature. Et ça, ce sera un sujet pour les Occidentaux, pour nous autres qui livrons ces armes, qui devra être évaluée assez rapidement.
Alors, je rappelle que dans le Donbass, Severodonetsk fait toujours l'objet de très violents combats, d'une forte intensité évidemment, alors qu'une grande partie de la ville est maintenant encerclée par les Russes, mais que les Ukrainiens continuent de faire de la résistance. On va aborder ces tensions qui sont nées entre Paris et Kiev. Tout est parti, Guillaume Bigot, d'une phrase d'Emmanuel Macron vendredi, appelant, je cite, à ne pas humilier la Russie. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a réagi sur Twitter. Voici ce qu'il dit. Les appels à éviter d'humilier la Russie ne peuvent qu'humilier la France ou tout autre pays, car c'est la Russie qui s'humilie. Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies. Emmanuel Macron a précisé quand même que ne pas humilier la Russie, c'était pour au moment de la fin de la guerre, qu'on puisse trouver un chemin de sortie par voie diplomatique. Est-ce qu'il a eu tort ou raison de prononcer cette phrase, Guillaume ?
Je pense qu'il a vraiment eu tort, de la même façon que, comme on a un préjugé très favorable à la partie ukrainienne dans ce conflit qui est en effet assez complexe, et on l'a pour de bonnes et de mauvaises raisons. De bonnes raisons, c'est parce que M. Poutine s'est mis dans son tort, a violé le droit international, a pris l'initiative de la guerre, et qu'en plus, il tient mal ses soldats qui sont vraiment très très mal comportés.
Et commettent de nombreux exactions.
Bien sûr. Donc, bon, une fois qu'on a dit ça, on a clairement plutôt, au plan... si vous voulez, des principes et des émotions, envie de se solidariser avec les Ukrainiens. Mais d'un autre côté, cette situation, effectivement, elle est quand même beaucoup plus complexe qu'on veut nous le faire croire. Et surtout, surtout, il faut bien imaginer que la Russie, qui a ses qualités et ses défauts, personne ne va désinventer la Russie. Quand bien même, d'ailleurs, M. Poutine, un jour ou l'autre, partira, parce qu'un jour ou l'autre, il va bien finir par mourir, ou par être victime peut-être d'un mouvement interne, ou peut-être être victime d'un cancer, ce qu'on nous explique.
Il y a beaucoup de...
Qui va le remplacer ? Exactement. Qui va le remplacer ? Il faut bien comprendre que, pour les Russes, l'Ukraine, c'est une partie de leur histoire, c'est une partie de leur territoire, c'est manifestement pas du tout le cas du côté ukrainien, et ça pose un gigantesque problème. Il y a d'autres dimension géostratégique à ce conflit, dont on ne nous parle pas trop d'ailleurs. Il faudrait vraiment retourner le dessous des cartes. Mais grosso modo, le président Macron, c'est le sujet, a 100 fois raison de ménager l'avenir. Parce qu'au-delà de Vladimir Poutine, il y a la Russie. Et encore une fois, personne... Si vous voulez, le fantasme américain, c'est de dire, bon, quand quelqu'un nous déplaît au plan stratégique, on l'appelle par son prénom, Saddam, etc. Et on va détruire son pays et on va en faire un parking ou un no man's land. Bon, ce qu'on a fait en Irak, par exemple. Mais c'est un fantasme de penser que ça va se passer comme ça en Russie. La Russie, c'est un pays immense, très peuplé, et c'est une puissance, et qui plus est, une puissance nucléaire. Donc, de toute façon, demain, quelle que soit l'issue de cette affaire, il faudra parler avec la Russie.
Vous avez commencé par dire qu'il avait eu tort, Emmanuel Macron.
J'ai dit tort, alors je me suis trompé. Je pense que c'est le diplomate ukrainien qui a eu tort. Emmanuel Macron a parfaitement raison de continuer à discuter avec la Russie. Et discuter avec la Russie, ça ne veut pas dire approuver la Russie par ailleurs. Et là, je pense que là où les Ukrainiens ont tort, et M. Zelensky a tort, c'est comme il a un énorme succès de communication et qu'il a réussi à capter l'attention et à capter la lumière et se rendre extrêmement sympathique, parfois, vous savez, c'est le phénomène de l'hubris. Il va trop loin. À la Knesset, il a commencé à expliquer que ce que subissaient les Ukrainiens, c'était comparable à la Shoah. Quand on sait la part que les Ukrainiens et les nationalistes ukrainiens ont pris dans la Shoah, c'était pas très habile. Maintenant, aujourd'hui, dire que la Russie s'humilie elle-même, d'accord, dire que la France s'humilierait en disant qu'il faut continuer à avoir un contact avec la Russie, c'est vraiment plus que de la bêtise, c'est une erreur.
On continue d'en parler dans un instant, juste après les titres. Elisa Lukaski, 8h30.
Europe 1.
Queen, Alicia Keys, Diana Ross ou encore Andrea Bocelli. Voilà les stars qui ont animé le concert géant donné hier soir devant Buckingham Palace en l'honneur du jubilé de platine de la reine. 22 000 chanceux tirés au sort étaient présents à 96 ans. La protagoniste Elisabeth II était-elle absente de ce grand rendez-vous ? Nouvelle étape dans la conquête spatiale de la Chine. 3 astronautes ont décollé ce matin vers le Palais Céleste, la station que Pékin construit en orbite et qui devrait désormais être occupée en permanence. Les 3 astronautes devraient rester environ 6 mois dans la station spatiale internationale. 2 semaines avant la marche des fiertés de Paris, cette deuxième édition de la Pride des banlieues, elle a réuni plus d'un millier de personnes dans les rues du centre-ville de Saint-Denis hier. Objectif, défendre les droits LGBT dans ces territoires avec des revendications spécifiques comme l'accès à la santé, au logement et la lutte contre le racisme.
Merci Elisa. En France maintenant, cette série qui interroge sur le rapport que nous entretenons avec les politiques. Jean-Michel Blanquer, aspergé de crème chantilly dans le Loiret, et Marine Le Pen, visée par un jet d'œuf dans le Nord, les gestes violents émaillent la campagne des législatives à une semaine tout juste du premier tour. Solène Boulan.
Sur cette vidéo, Jean-Michel Blanquer, vêtu d'une chemise blanche, se fait asperger de mousse. L'ancien ministre de l'Éducation nationale a été pris à partie ce samedi au marché de Montargis. Il a réagi à cette agression sur Twitter.
Une campagne électorale est un moment de bonheur démocratique par l'échange. Ça se passe bien ici à Montargis à la rencontre des citoyens. Je viens d'être agressé par 2 individus qui veulent casser cela. Ne l'acceptons pas. Vive le calme, vive le respect, vive la démocratie.
La veille, Marine Le Pen a été visée par un jet d'œuf à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord. Des agressions préoccupantes pour ce politologue.
Ce sont les symptômes de quelque chose qui probablement peut s'embraser. On sait que dès le moment où vous avez des violences vis-à-vis des politiques, c'est que vous avez à la fois une crise de légitimité et une crise de la politique au sens qu'elle est l'outil de pacification du débat public.
Selon les données provisoires du ministère de l'Intérieur, 956 élus ont été pris pour cible entre le 1er janvier et le 9 mai 2022, dont 773 victimes d'insultes, notamment des menaces de mort. En 2021, le ministère de l'Intérieur avait recensé 1186 élus victimes de violences.
On a ici souvent évoqué, hélas, ces violences contre des élus de tous bords, quelle que soit leur fonction. On assiste, Guillaume Migaud, à une forme de glissement, d'acceptation de cette violence, comme si c'était inévitable.
Ce qui me paraît le plus étonnant, c'est que les politiques eux-mêmes semblent non peut-être pas légitimer cette violence, mais en tout cas l'accepter comme un fait accompli, comme quelque chose qui fait partie du paysage. On entend ces politiques nous dire « c'est vraiment, je suis à portée de baffe de l'électeur ». Alors cette expression, elle fait assez froid dans le dos.
C'était Xavier Bertrand l'an dernier.
Exactement. Comme si finalement, pour un politique, ça faisait partie du job d'assumer, de se prendre des claques de la part des électeurs. Mais c'est complètement fou. Ça veut dire que c'est vraiment, on ne se rend plus compte des mots. Ça va être légitime. Voilà. Et je pense que l'absence d'autorité, elle commence par l'absence de sens des mots. Quelqu'un qui est entarté, qui prend de la mousse, ce n'est pas de la violence. C'est une violence symbolique, si on veut. Mais la violence symbolique, ce n'est pas la violence physique. Ce qui est inacceptable, totalement inacceptable, c'est d'en venir aux mains, c'est que les politiques soient menacées physiquement, frappées, etc.
Ou de menacées de mort, comme c'est régulièrement le cas.
C'est encore bien pire. Vous voyez, donc François Mitterrand, combien de fois François Mitterrand a eu le visage couvert de crachats. Il les a essuyés et il continuait son périple. Quand on interpellait Charles de Gaulle, on lui disait « mort au con », il répondait « vaste programme ». Voilà, maintenant, ces petits êtres fragiles de la République en marche, si on leur met un peu de mousse, ils portent plainte. C'est ça le problème aussi. Et quand les politiques disent « on est à portée de baffe », et quand les politiques vont porter plainte parce qu'il y a une violence qui est symbolique, ils ne comprennent pas que dans la politique, il y a une violence symbolique. Que la politique, surtout en démocratie, sert à évacuer la violence, parce qu'on n'est pas tous d'accord les uns avec les autres, à travers, d'une certaine façon, ce qu'on appellerait une polémique, c'est-à-dire l'étymologie est intéressante, parce qu'en grec, comme vous savez, polémique, c'est le même terme que la guerre. Donc c'est faire la guerre, mais faire la guerre de manière pacifique, avec les mots. Mais pour faire que ça fonctionne, encore faut-il, un, avoir une opposition, et ne pas faire en sorte que les élections... Parce que là, je ne sais pas, quelqu'un a entendu parler d'un programme de La République En Marche, vous en avez entendu parler ou pas? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est confiné, le programme. Peut-être qu'il y a des instructions qui ont été données au plus haut niveau pour pas que les candidats de La République En Marche viennent dans les médias, défendent un programme, défendent une ligne directrice. En tout cas, à part M. Mélenchon, on n'entend personne.
Gabriel Cluzel, sur cette violence, qu'elle soit symbolique ou non.
Oui, moi je suis d'accord et pas d'accord. Alors c'est vrai qu'il y a eu... il y a toujours eu de la violence en politique. De toute façon, la politique, c'est fait pour être violent. Et puis, quand on descend dans la rue, on n'est pas comme le pape sur une sédia gestatoria, enfin, le pape autrefois. Et on est évidemment à portée de crachats, d'insultes, etc.
C'est pas normal d'être frappé.
Ça permet de... D'ailleurs, de voir un peu la capacité flegmatique et à résister du candidat. Mais néanmoins, c'est quand même une forme de violence. Moi, je considère qu'être entarté, c'est extrêmement violent. Et quand on voit que ce sont deux professeurs, si j'ai bien compris, qui ont entarté leur site devant ministre, leur ancien ministre,
le 4 juillet.
C'est quand même assez problématique parce que ce sont eux qui sont censés instruire nos enfants et leur transmettre le béaba de la bonne tenue aussi en société. Enfin, ça paraît quand même assez fou. Ce qui est certain, c'est que moins, et ça vous avez raison, moins il y aura d'opposition démocratique, moins il y aura d'opposition
et de débat.
Exactement, mais de débat à l'Assemblée, etc. Et plus il y aura de violence dans la rue, c'est évident, parce que à un moment, l'opposition, la contestation devra s'exprimer quelque part. Donc, sans dramatiser, il faut néanmoins prendre ces signaux comme des avertissements faibles et les prendre en compte. Il est évident qu'un certain nombre d'initiatives prises aujourd'hui affaiblissent aussi la démocratie. Moi, quand je vois le Conseil national de la refondation, on va encore tirer au sort des citoyens. Vous savez,
c'est comme, la nouvelle méthode proposée par Emmanuel Macron. Comme pour
la convention. C'est de la violence symbolique contre la démocratie.
Exactement, parce que on a déjà eu ça avec le climat, on a déjà eu ça avec le vaccin. Je ne sais pas où sont passés les 35 citoyens. Ça a été dissous en septembre 2021, je crois d'ailleurs, qui avaient été tirés au sort. On voit bien que ça ne sert à rien. Et surtout, on dirait que ça se substitue à l'Assemblée nationale, finalement. Alors, tirons au sort les députés, si finalement tout fonctionne de cette façon. Donc, je crois qu'au contraire, il faut reconstruire et cesser d'abîmer la démocratie pour arriver à avoir une opposition apaisée.
Par quoi passe le remède à cette violence, Guillaume Migaud ?
Prendre au sérieux les oppositions. C'est-à-dire que cette technique consistant à diviser pour mieux régner ne peut avoir qu'un temps. Et si vous voulez, ce qui est aussi, je ne suis pas du tout en train de justifier, encore moins de légitimer cette violence, même symbolique, ce que M. Blanquer a subi, qui n'est pas très agréable, c'est vraiment de la violence, on va dire, symbolique. Je dis simplement qu'elle fait partie des risques du métier, alors que les baffes ou les coups ne devraient pas du tout faire partie des risques du métier. Mais grosso modo, comment on peut essayer de la comprendre ? Je pense que ce qui déclenche la violence souvent chez un être humain, c'est la double injonction. C'est-à-dire, faites une chose et faites son contraire. Et lorsque vous avez un pouvoir politique qui d'ailleurs représente peut-être un Français sur quatre, ou en tout cas un Français sur trois, qui prétend finalement avoir toute légitimité et se sent d'une certaine façon sans frein. Et que mieux encore, il dit, c'était ce que faisait le chef de l'État dans sa campagne de dernière minute, parce que là il y a une campagne de dernière minute et un refus de débattre. Tout en appelant, si vous voulez, à ce qu'il n'y ait pas de... à ce qu'il y ait le maximum de participation et en stigmatisant et en condamnant comme étant le fait vraiment de gens totalement dépolitisés, des beaufs qui s'en fichent, etc., l'abstention. Mais simultanément, vous alimentez l'abstention en ne faisant pas débat. Mais pendant la séquence présidentielle, on a entendu le chef de l'État, moi ça m'a beaucoup surpris, dire « un tel, ils sont racistes, ils sont antisémites, il avait utilisé des termes d'une violence inouïe, ce sont des lépreux, Monsieur Mélenchon, il va semer le chaos, le désordre, mais ne les sifflez pas ». C'est ce genre de double injonction qui rend les gens fous. Mais vous en avez des tonnes de double injonctions de ce type. Prenez un autre phénomène. Vous avez dans ce pays un déferlement de haine et de violence gratuite qui est manifestement à connotation raciste. Les gens qui la subissent, s'ils l'évoquent, on leur dit « mais vous êtes des racistes vous-même ». Parce que vous êtes victime de racisme, vous le dites, alors vous êtes des racistes. Et mieux encore, on va trouver d'une certaine façon... plus ou moins des excuses à une véritable violence. Enfin, quand un père de famille reste handicapé, il peut y avoir, comme vous savez, des peines, des sanctions pénales qui sont très faibles. Là, lorsque quelqu'un commet une violence symbolique, certes tout à fait discutable, comme donner un peu de mousse sur le visage d'un ministre, il va avoir de la prison, probablement. Donc ça aussi, cette espèce de être fort avec les faibles et faible avec les forts, c'est quelque chose qui peut déclencher aussi, finalement, une espèce de colère. Je ne la justifie pas, mais on peut l'expliquer.
On entend bien. Banalisation de la violence, banalisation aussi, hélas, des scrutins. À une semaine du premier tour, les Français sont nombreux à se désintéresser des législatives. Le taux de participation, et vous avez commencé à l'aborder l'un et l'autre, pourrait être à nouveau historiquement bas, comme lors des dernières législatives. Reportage à la gare Montparnasse. Clémence Barbier et Charles Berger. Nous n'aurons pas ce reportage. En tout cas, nous pouvons continuer d'évoquer le problème de participation, ou en tout cas la question de l'abstention qui risque d'être très forte, Gabriel Cluzel, et qui est en lien avec ce que l'on disait finalement précédemment.
Oui, nous parlions de signaux faibles qui doivent nous alerter. Ben, cette abstention, on ne peut pas s'en contenter. Sur un plan démocratique, on ne peut pas s'en contenter. Pour n'importe quelle réunion de copropriété, pour changer un pot de fleurs, on a besoin d'un quorum, parce qu'on considère que c'est important que les gens aient donné leur avis.
Oui, c'est vrai.
Pour décider de qui va faire nos lois, là, c'est pas grave, peu importe qu'on soit un tout petit noyau à en décider. C'est un vrai sujet. Et il faut se demander pourquoi les gens ne vont pas voter. Ils s'en désintéressent parce qu'ils ne se reconnaissent pas de destin commun, peut-être. Hein. C'est la fameuse archipélisation dont parlait Jérôme Fourquet. Donc ils se disent, finalement, pourquoi j'irai participer à cette grande messe française ? Je ne me sens pas un destin commun avec les autres. Finalement, ça ne changera rien. pour des raisons internes, parce que le découpage fait cette absence de proportionnelle, hein, qui a été, on attend la proportionnelle comme on attend Godot, on l'a jamais vu venir. Emmanuel Macron l'avait promis, une dose, pas une dose, et elle est toujours pas là, ce qui fait qu'il y a quand même, par exemple, tous les électeurs du Rassemblement National qui se sentent extrêmement floués, forcément, hein, et qui se disent, bah, pourquoi aller foirer mon week-end pour aller voter, si, surtout s'il fait beau, alors que finalement ça sert à rien. Et puis le sentiment que les décisions, peut-être, et ça avance doucement, que les décisions sont peut-être prises ailleurs, qu'aujourd'hui, finalement, les décisionnaires, ils sont en Europe et pas en France, donc là encore, pourquoi se mobiliser? Et tout cela, à mon avis, doit être pris en compte et résolu rapidement.
Guillaume Bigot, j'en appelle aux politologues, vraiment, que vous êtes sur le sens même de ces élections législatives. Ce n'est peut-être pas inutile de rappeler à quel point ces élections ont un sens.
Ah oui,
pour le quotidien des Français, ce que disait Gabriel.
Exactement, même si des mécanismes, disons vraiment de nature constitutionnelle, des révisions constitutionnelles se sont mis en place pour, disons, encore davantage vider de sa substance le pouvoir législatif, dont il faut rappeler qu'il est double. Il est de voter les lois d'un côté et de contrôler le pouvoir exécutif de l'autre. Donc c'est pas rien en démocratie, voter la loi et contrôler le pouvoir exécutif. Dès le démarrage de la Ve République, parce qu'il y avait eu des excès à cet égard sous la IIIe et sous la IVe, les fondateurs de la Ve ont voulu, d'une certaine façon, museler le Parlement, en tout cas faire en sorte, ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, faire en sorte que le Parlement ne puisse plus faire chuter les gouvernements, que le Parlement ne puisse plus vraiment mettre sur le grill le gouvernement. Donc la fonction de contrôle a été relativement affaiblie, relativement faible. Vous voyez, par exemple, le président de la République ne défend pas sa politique devant le Parlement. Il n'est pas responsable, lui, devant le Parlement. Or, on sait bien, et surtout depuis 62, que c'est lui le grand patron, puisque c'est lui qui bénéficie de l'aura du suffrage universel. Donc, on a ce mécanisme. Mais bien sûr que le quinquennat a fini de vider de sa substance complètement cette fonction parlementaire, parce que le quinquennat fait de facto, quand il y a une majorité présidentielle, c'est ce qu'on va voir ou pas, d'ailleurs, quand il y a une majorité présidentielle, ce sont, comme on disait déjà sous l'ère de Gaulle, des godillots, ce sont des pots de fleurs, ce sont des gens qui appuient sur des boutons qui font.
C'est plutôt décourageant là pour aller voter.
Oui, mais c'est le système lui-même. Oui, je n'accuse pas les individus. D'une certaine façon, ce ne sont pas les députés. Il y a des gens très bien dans tous les partis. Ce n'est pas non plus le président de la République qu'on peut critiquer pour beaucoup de choses. Mais là, c'est la logique du quinquennat qui pousse à ça. S'ajoute ce phénomène propre à la démocratie post-moderne, qui est de moins en moins démocratique, c'est-à-dire des transferts de pouvoir à Bruxelles, c'est-à-dire le pouvoir des marchés et des grandes entreprises, c'est-à-dire encore le fait qu'il y ait une volonté de technocratiser, de tout complexifier dans les chaînes de décision, avec des millefeuilles administratifs, avec des... On parlait d'hier, c'était un phénomène très classique. Le maire, on voit bien qui est le maire, hein. Le maire, on peut aller le voir, il a été élu, il répond devant ses administrés. Oui, sauf que si le maire ne décide plus, et qu'on décide de mettre les maires en réseau dans des communautés de communes, avec 5 ou 6 couches de subventions, qui décide de quoi? Est-ce que le maire sera capable de rendre compte à ses administrés? En fait, non.
9h moins le quart, le rappel des titres, et on continue de parler des législatives avec vous.
Europe 1.
Des explosions ont secoué Kiev ce matin, d'après le maire de la ville, Vitali Klitschko. Des tensions toujours aussi vives, alors qu'hier, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a taclé Emmanuel Macron sur Twitter. Il a dénoncé les appels à éviter l'humiliation de la Russie. C'est la Russie qui s'humilie. Nous ferions mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place, a-t-il déclaré. Deux hommes ont été placés en garde à vue après avoir entarté Jean-Michel Blanquer hier. L'ancien ministre de l'Éducation, candidat aux législatives dans le Loiret, déambulait sur un marché de Montargis lorsque deux hommes lui ont lancé une tarte à la crème au visage. Des agressions de politiques de plus en plus nombreuses. Et puis Raphaël Nadal va-t-il s'offrir un 14e sacre à Roland-Garros? Réponse dès 15h, le numéro 5 mondial dans son jardin, sur la terre battue parisienne. Il est opposé au Norvégien et numéro 8 mondial Casper Ruud, qui lui disputera sa première finale en Grand Chelem.
Merci Elisa, vous restez avec nous, on a encore besoin de vos services Elisa. On continue à parler des législatives, on a parlé des violences, on a parlé de l'abstention, on va quand même parler des candidats, ou en tout cas du duel annoncé, mais peut-être que ce sera totalement différents en fonction des résultats. Finalement, c'est toujours le jeu des scrutins. On n'en sait rien à l'avance. En tout cas, lui, il en a fait presque un slogan depuis sa défaite à la présidentielle. C'est Jean-Luc Mélenchon qui espère qu'Emmanuel Macron le nomme Premier ministre. Le président balaie cette hypothèse d'un revers de main, mais avec des sondages très encourageants, le leader de la NUP, de la NUPES, ne s'avoue pas vaincu. Elisa Lukavski, ce duel se montre désormais plus que jamais d'actualité.
Oui, quand on regarde de plus près les intentions de vote des Français pour les élections législatives, on constate qu'obtenir la majorité absolue pour le parti au pouvoir est incertain. Pour rappel, l'Assemblée nationale, elle compte 577 députés. La majorité absolue est donc de 289 sièges. D'après le dernier sondage sur les législatives, regardez, la majorité présidentielle obtiendra entre 275 et 310 députés, alors que la NUPES en aurait entre 170 et 205. Pour autant, dans les rangs LREM, on reste serein, voire même incisif. Il n'y a pas d'inquiétude. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Si on faisait de la politique en fonction des sondages, Jean-Luc Mélenchon aurait pris sa retraite il y a longtemps, déclare Christophe Castanière, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Du côté de Manuel Bompard, lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, on voit ces législatives comme le troisième tour de l'élection présidentielle, tout simplement. Ce sont les élections législatives qui vont décider de la politique qui sera menée. Oui, un autre monde est encore possible, déclare-t-il. La NUPES, une force d'opposition qui compte peser et perdurer. À la question de savoir si le parti a un avenir après ces législatives, la réponse est oui pour Manuel Bompard. Objectif, exercer immédiatement le pouvoir, je cite, ou préparer les victoires de demain.
Guillaume Bigot, c'est là le duel auquel il faut réellement s'attendre?
C'est pas certain. Je pense qu'il y a quand même que le duel soit attendu par les deux protagonistes, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr, ils ont l'un comme l'autre, d'une certaine façon, en se tenant par la barbichette, l'intérêt à poursuivre le duel, alors que...
En éclipsant les autres partis.
Personne n'a remarqué que M. Mélenchon n'a pas été au second tour. Donc finalement, c'est un troisième tour qui voudrait effacer le second tour. C'est ça qui est étonnant. Il utilise les législatives comme un troisième tour présidentiel. Alors on est à nouveau dans cette logique qu'il critique pourtant lui-même, en appelant de ses voeux une sixième république, dans cette logique de présidentialisation à l'extrême. Lui-même n'est même pas candidat cette fois, mais qu'importe, c'est la figure de proue de l'élection présidentielle. Il a réussi à ramasser les morceaux de la gauche. Et on est dans un jeu un peu de nupes, si vous passez l'expression. On l'a déjà fait 100 fois, mais bon, c'est pour un motif différent. C'est de faire croire cette fois-ci que le véritable débat sera entre un Emmanuel Macron qui a décidé de mettre quelques gouttes d'écolo-wokisme dans sa potion amère libérale bruxelloise, face à un Mélenchon qui, lui, se veut la figure de proue d'une gauche ressuscitée, qui est ce que... on appelait un peu la gauche zombie, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'un combat social, il y a beaucoup d'indigénisme, il y a de l'esprit de collaboration avec l'extrême droite islamique, il y a aussi de l'écologie à proprement parler, qui est quand même un arrêt, un peu un mise à l'arrêt de la machine industrielle française, etc. Donc tout ça est porté par M. Mélenchon, et l'un comme l'autre ont intérêt à faire croire que le duel va se porter là-dessus. Mais en fait, évidemment, c'est une énorme opération de diversion.
Et pendant ce temps-là, on n'entend pas la droite. Gabriel Cluzel.
Oui, c'est une forme de petit coup d'État médiatique en réalité, hein, en s'appuyant à la fois sur les sondages et sur cette idée qu'il devrait être Premier ministre. Hein, la droite a été évacuée. C'est quand même Marine Le Pen qui est arrivée au deuxième tour. Et c'était pas du tout le score, le final qu'il pouvait y avoir entre son père et Jacques Chirac. Hein, donc c'est une petite moitié de la France qui a décidé de voter pour elle. Et néanmoins, aujourd'hui, on a l'impression que toute cette partie de la France a été effacée et qu'il n'y a plus qu'Emmanuel Macron face à Jean-Luc Mélenchon. Alors, de fait, Emmanuel Macron, comme il se sent en concurrence avec Jean-Luc Mélenchon, il essaie de le tacler sur son terrain. Donc, il va faire des choix. On connaît le choix du ministre de l'Éducation. Il fait des sorties. Alors, Elisabeth Borne en banlieue, lui à Marseille. On voit vers quoi il oriente. Il fait les yeux de chimène. Et il faut voir qu'il y a une partie de la population de droite, qui est interdite d'union, hein, de façon, parce qu'on a des préceptes moraux qui fait que la gauche peut s'allier à l'extrême gauche, la droite a interdiction de s'allier avec l'extrême droite. Donc de ce fait, elle ne peut pas s'allier, elle est divisée et elle a été évacuée. Imaginez ces électeurs médusés. C'est quand même, là aussi, démocratiquement un peu surprenant, et le mot est faible.
Guillaume Bigot, d'un mot, quel risque pour dimanche prochain ? C'est difficile comme exercice, mais...
Non, le risque pour dimanche prochain, il n'est pas pour dimanche prochain, il est pour les 5 années à venir, c'est que la démocratie soit un peu vidée de sa substance. On n'a pas parlé d'un facteur qui est très important, c'est le fait que les députés sont vraiment maintenant hors sol, parce qu'ils n'ont plus de lien, ils peuvent plus, vous savez, cumuler avec d'autres fonctions électives, notamment maire. Mais là, je pense que ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, c'est un incroyable effet de bonneteau, puisque Mélenchon pèse moins que Marine Le Pen seule, mais le gros facteur, c'est quand même l'absence d'unification entre les populistes de droite, c'est-à-dire Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui n'ont pas déclenché de dynamique. Et enfin, je pense qu'une fois que le chef de l'État a vraiment fait la peau de la droite de gouvernement, il a plutôt intérêt à faire croire qu'il y a une gauche de gouvernement qui le menace, parce que comme ça resserre les rangs derrière lui de la droite de gouvernement.
Le grand rendez-vous à 10h sur CNews Europe 1 avec vous, Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, qui est votre invitée aujourd'hui ?
Bonjour à vous Isabelle et bonjour à tous. Notre invité, eh bien, c'est l'un des ministres de poids de ce gouvernement et vous savez qu'il se compte sur les doigts d'une main. Lui, c'est Bruno Le Maire, c'est le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. C'est un poste à rallonge désormais.
Sur quel thème avez-vous l'intention de l'interroger, Sonia ?
Et bien sûr, le thème dont vous débattez depuis tout à l'heure, Isabelle, bien sûr, l'aspect politique avec les législatives et le titre du JDD ce matin, sueur froide à l'Élysée avec des sondages qui inquiètent la majorité. Et puis, bien sûr, aussi sur l'inflation, le pouvoir d'achat, tous ces thèmes qui nous concernent tous. Et c'est à 10h le grand rendez-vous.
Merci beaucoup, Sonia. Le rendez-vous est pris. À tout à l'heure. Merci, Gabriel Cluzel, d'être venu dans la matinale week-end. Guillaume Bigot, merci également. Vous restez avec nous pour la suite de la matinale week-end sur CNews. Et pour nos chers auditeurs d'Europe 1, vous retrouvez tout de suite Thierry Dagiral et Frédéric Taddeï. Bon dimanche à vous.
Merci Isabelle Moreau, bon dimanche à vous également. Dans un instant, c'est arrivé demain, le programme. Frédéric, bonjour.
Bonjour Thierry, la grève de l'hôpital mardi prochain, on va voir ça avec Frédéric Bizarre. Les élections législatives avec Mathieu Gallard d'Ipsos et l'exposition Rothko Monet à Giverny avec Cyril Siama.
A tout de suite, à suivre le journal de 9h, la France sous l'eau, mais ça va mieux ce matin. La France qui va voter dans une semaine et la France qui va regarder Nadal en finale cet après-midi pour la 14e fois. Ne quittez pas, on revient.